souviens, je me rappelle.
Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose un entretien un peu exotique. Nous sommes en Algérie et Brahim Benhamani, notre guide, se souvient. Bonjour Brahim.
Bonjour.
Donc Brahim, nous sommes dans un pays exotique pour nous, mais qui est votre pays, qui est donc l'Algérie. Vous êtes de Constantine, vous êtes notre guide, mais bien plus que ça, vous êtes quelqu'un qui est, tous les jours parle de ses connaissances, qui sont aussi bien de son pays que du nôtre, ou d'ailleurs. Ouais. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a donné ce goût ? Est-ce que vous avez eu une influence ? Comment ça s'est passé pour vous ?
Dès mon jeune âge, j'étais toujours très intéressé par les leçons d'histoire. Donc le professeur parlait et moi je voyais un film qui se déroulait. Donc
vous voyez les images.
Oui.
Ouais. Ce professeur était quelqu'un de particulier.
Non, pas nécessairement, mais ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il disait.
Oui.
Voilà. Pour moi, c'était à chaque leçon, c'était un film qui se déroulait devant mes yeux. Mais c'était beaucoup plus un film linguistique et moi je le transformais en image dans ma tête. Voilà, donc à partir de là, j'étais porté sur la chose historique. C'était jusqu'à maintenant, c'est mon centre d'intérêt. Et après, ça s'est transformé en un vouloir de connaître l'autre, à travers son histoire.
À travers ses racines.
Voilà.
C'est-à-dire connaître l'autre, c'est connaître son histoire.
En même temps, parce que finalement, nous sommes des humains. C'est l'histoire de l'humanité aussi. Et tout ça, après, s'est cristallisé au fur et à mesure de mon âge, si l'on veut dire de ce seul point de vue. Et j'étais toujours absorbé par les livres. J'adorais les livres et je les adore maintenant aussi. Je chinais chez les bouquinistes. J'ai ramassé pas mal de livres. Et des livres précieux.
Donc des livres, c'est pas des livres comme ça, comme des livres de poche, mais c'est des livres qui sont aussi un matériau, qui sont une histoire.
Ah oui, ouais. Ah oui. Parce que j'ai des livres qui ont finalement une histoire, qui me replongent dans l'histoire, soi-disant du monde, ou même de ma ville aussi.
Alors votre ville, qui est Constantine.
Constantine, oui. Oui, Constantine.
Et est-ce que pour vous, Constantine, c'est un monde déjà qui est un reflet du monde ?
Ah oui, du fait que plusieurs civilisations se sont succédées sur le rocher. Et lorsqu'on dit différentes civilisations, ça veut dire différentes personnes. Donc finalement, on a vu se succéder depuis des temps très anciens, les Numides, enfin avant les Numides, les Gétules, les Numides... et après, les Romains, les Phéniciens, les Grecs, les Vandales, les Byzantins, les Romains. Et puis finalement, l'invasion arabe en 600, au 7e siècle. Donc tout ça, ça m'a amené...
Et vous vous sentez un peu fait de toutes ces peaux.
Oui. Parce que même au niveau, si l'on veut, au niveau de l'urbain, c'est des strates de civilisation qui se sont accumulées, mais aussi au niveau de l'humain aussi. C'est des mentalités qui se sont aussi, s'ils ne sont pas superposés l'une à l'autre, ils se sont croisés.
Et donc c'est plutôt une richesse enfin, il y a des antagonismes.
Indéniablement. Ouais. Indéniablement, c'est une richesse.
Et quelque chose de plus dramatique, enfin, notre histoire récente avec la France.
Ah oui. Bon, moi, je la vois d'un point de vue comme étant un fait historique qu'on doit assimiler, tout simplement. Parce qu'à un certain moment de l'histoire, on peut être fort et asservir l'autre, et vice-versa. Donc, à un certain moment, l'Occident était fort, il a asservi une partie du monde. Tout simplement. Mais bon, il y avait une résistance armée, une résistance culturelle, une résistance sociétale, pour ne pas dire aussi une résistance religieuse. N'oubliez pas que, aussi avec le corps expéditionnaire, il y a eu des évangélistes aussi. Il y a eu des missionnaires. Installation de Sœurs de la Charité, installation des Pères Blancs. C'est clair, donc c'est, eux aussi avaient tout un arsenal pour acculturer d'abord la population, parce qu'après on a eu comme corollaire l'acculturation de toute une société quand même. Plus que ça, c'est un effacement de l'identité.
Ah, c'est peut-être ça qui fait que vous soyez tellement donc avide de retrouver votre histoire.
Ah oui, exactement, c'est ce que tu viens de dire. Je voulais connaître qui suis-je, finalement. Voilà, c'est ce qui m'a amené, cette interrogation m'a amené à connaître tous ces faits historiques que j'observe, moi, sont complexes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, c'est une richesse. Il n'y a pas une civilisation qui n'a pas apporté à l'autre.
Même la France.
Et évidemment. Évidemment. Dans toute chose négative, il y a toujours un point positif.
Et donc, là, vous avez eu l'envie de transmettre.
Oui. Oui. Ah oui. Après l'accumulation, c'est la transmission. C'est tout à fait normal. Mais avec un œil objectif. Moi, je ne porte pas de jugement. Moi, j'étale, j'expose, je présente les faits. Et je donne les outils, les moyens. Mais je ne juge pas.
Vous n'interprétez pas.
Pas d'interprétation. Pas d'interprétation. Sauf s'il y a des preuves matérielles d'un fait. Mais globalement, non, je ne fais pas ça. Je laisse le soin à mes interlocuteurs d'appréhender cela avec les outils qui sont entre leurs mains.
Comme un messager.
Voilà, tout simplement.
Et alors, cette facilité d'être le messager, donc vous l'avez exercé en tant que professeur de français.
Oui. Et là, pardon, j'ouvre une parenthèse, là où réellement j'ai vu ça, c'est lors de la visite de l'association Max Marchand Moule de Feraoun en 2005. Et les gens se sont étonnés, c'est-à-dire les membres de l'association se sont étonnés lorsque je leur disais que moi, chaque 15 mars, je lis des passages du Fils du pauvre à mes élèves et je leur parle de ce qui s'est passé et de l'assassinat des 6 inspecteurs des centres sociaux éducatifs créés par Germain Tillion.
Expliquez-moi.
Ces centres sociaux éducatifs ont été créés par l'ethnologue Germain Tillion. Et elle voulait, à travers ces centres sociaux, aider les filles algériennes. Sauf qu'il y a eu, de l'autre côté, ce mouvement, le lancement de la révolution, et puis les ultras. Donc, elle a rattaché les centres sociaux pour une couverture à l'éducation nationale. Et on disait à l'époque que les centres sociaux, ce sont des repères de Felaga. Eh oui, lorsqu'on veut noyer son chien, on dit qu'il a la gale.
Et donc, vous avez...
Donc un jour, un commando de l'OS en tenue civile se sont présentés comme étant des policiers. Et ils ont fusillé les 6 éléments, 109 balles pour les 6. Voilà, c'est tragique. On a assassiné l'intelligence, on a assassiné la fraternité, on a assassiné la tolérance, parce qu'il y avait Maxime Marchand, recteur de l'Académie d'Alger, il y avait Monsieur Bassé, il y avait Monsieur Aymar, et de l'autre côté il y avait Mouloud Feraoun, Mohamed Salah Oul Daoudia et Hamouten. Donc à travers ces trois monuments, ces trois humanistes, ces trois altruistes, on a assassiné ce qui restait à l'époque de beau et de bien.
Donc vous avez voulu rétablir la vérité.
Eh oui, évidemment, parce que c'était quelque chose à l'époque d'inconnu. D'ailleurs, on a commémoré ça pour la première fois en 2005.
Et vous êtes aperçu, donc, au moment que vous m'avez cité, que vous portiez votre voix portée.
Oui, et oui.
C'était une révélation. Comment vous
d'ailleurs, Jean-Philippe Ouldaoudia, un des fils des fusillés, m'a vraiment désigné sous le vocable de porteur de mémoire. Il m'a désigné sous ce vocable. Lorsque je leur ai parlé de l'événement et de ce que je faisais chaque 15 mars avec mes élèves, ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Oui, mais on peut pas enterrer ça, bon sang.
On ne peut pas rester mou devant la vérité.
Voilà, tout simplement. Comme tu m'as appris une expression, rester au balcon.
Oui.
Voilà. On peut pas rester au balcon.
Comme des histoires actuelles
oui.
pour lesquelles le monde est au balcon.
Oui. Voilà, exactement. Exactement, exactement. Donc tout cela s'est cristallisé au fur et à mesure de mon travail des deux côtés. Et là aussi, où ça s'est vraiment, ça a pris de l'ampleur et de l'importance lorsque je suis passé sur France Culture, en juillet 2007.
Donc vous étiez une voix qui portait.
Oui. Aussi sur TV5 Monde, en juin 2007, sur le site de Tidis, à 30 km de Constantine, site archéologique. Donc à chaque fois où... je ne sais pas si c'est la providence ou bien le hasard qui met sur mon chemin des éléments qui me permettaient d'un côté de m'évaluer et de l'autre côté d'aller de l'avant aussi.
Est-ce que vous pensez que c'est une forme de courage ?
Moi, je me dis que ça doit être fait. Point barre. Et je ne cherche pas un autre motif.
Il faut que vous soyez la personne qui le dit puisque d'autres ne le disent pas.
Voilà, voilà. Tout simplement, je me dis qu'il est de mon devoir de faire connaître ça. Je ne peux pas taire ça.
Et donc, vous êtes guide de voyage. Est-ce que vous pouvez vous permettre la même liberté en tant que guide de voyage ?
Moi, je suis ouvert à la discussion. Voilà. Je peux.
Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Brahim.
Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Tout le plaisir est pour moi, cher Jean-Jacques.
Est-ce que vous auriez un dernier mot à rajouter ?
Moi, je me considère comme un citoyen du monde.
Merci. Ben, ce sera le mot de la fin.
Voilà, tout simplement.
Voilà. Non, ce n'est pas tout à fait le mot de la fin, puisque plus tard, de Constantine, Brahim m'a fait parvenir ce poème qu'il a écrit.
Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel. Cultivant l'espérance pour plus de confiance, humanisant la sécurité. Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel. Rapprochant nos cœurs pour plus de chaleur, chantant la ferveur. Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel, ne soyons pas belliqueux, mais plutôt généreux, pratiquant la solidarité. Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel, luttant contre l'exclusion, maudissant la marginalisation, cultivant l'égalité. Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel, rejetant l'infamie, l'amour est un sentiment infini, faisant éclore la fraternité. Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel, cassons nos chaînes, chassons nos haines, protégeons la liberté. Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel, bannissons l'horreur afin de vivre dans le bonheur, instaurons l'honneur. Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel, bâtissant des cieux couleur vermeille, semant à profusion des soleils, projetons-nous dans la postérité. Et si on se la jouait fraternelle, nul n'est éternel, laissons-nous emporter par les rêves, et buvons à la source de la sève, car nous descendons tous d'Ève, portant haut l'humanité. Brahim Ben Amani, citoyen du monde, membre de l'humanité.
Eh bien, chers auditeurs, c'en est fini pour notre émission d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année.